avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, pourquoi si peu de femmes ingénieures? C'est la semaine de l'industrie en France, mais pas vraiment la semaine de la parité pour les ingénieurs. C'est incroyable parce que ce métier demeure un métier d'hommes partout dans le monde, ou presque, pour passer finalement, en général, ses journées dans un bureau. Près de 25% des ingénieurs sont des femmes, enfin un peu plus depuis un ou deux ans, si on regarde la sortie des diplômés. Alors, qu'elles sont finalement quasiment aussi nombreuses que les garçons à passer un bac scientifique. Donc où sont-elles passées ensuite, après le baccalauréat? Pourquoi ne font-elles pas le choix de ces carrières où le chômage est rare et les salaires plutôt cossus? En tout cas, les entreprises s'en inquiètent et les femmes ingénieures se mobilisent pour convaincre les petites sœurs. Alors pour en parler, je reçois quelques-unes de ces raretés. Marie-Sophie Pavlak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure chimiste de formation. Et vous avez créé il y a 10 ans l'association Elle Bouge, que vous présidez, pour susciter des vocations chez les jeunes femmes dans les domaines industriels. Afaf Sorna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur aussi, 38 ans, manager essai moteur en développement chez Safran,
oui,
qui est un groupe d'aéronautique. Et vous êtes responsable d'un service de 25 personnes, ingénieur et technicien supérieur.
Tout
C'est
à
ça.
Fait.
Et combien de femmes dans ce service que vous dirigez?
Alors, je suis très contente parce qu'en fait, il y a 5 filles dans le service, ce qui est quand même assez rare.
Ouais. D'accord.
Ce qui est quand même assez rare dans le domaine dans lequel on travaille.
Martine Landon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure dans une entreprise qui fabrique des machines de soins esthétiques et médicales. Vous nous direz aussi quelle est la réalité chez vous. Et Stéphane Rendretza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes DRH au sein du groupe Engie, qui est un fournisseur qui travaille dans l'énergie, donc fournisseur gaz, électricité, entre autres. Il faut bien rappeler qu'à la tête d'Engie, on a Isabelle Cocher, seule femme PDG d'une entreprise du CAC 40 à l'heure actuelle en France. On en est encore là. Vous nous direz si réellement les entreprises cherchent à recruter plus de femmes ingénieures. Nous donnerons aussi la parole à l'école polytechnique de Yaoundé au Cameroun et bien sûr les voisines. Si vous êtes ingénieur dans votre pays, vous pouvez tout à fait nous appeler pour témoigner au 33 1 84 22 71 71 ou bien si vous êtes un voisin, vous avez aussi le droit de vous étonner où sont les femmes ingénieures dans votre pays. Je vous lis quelques messages. Alors sur Facebook, je peux vous dire que le débat est déjà ouvert. Charles à Gizagara, qui est dans le nord-est du Burundi, poste ce message. Il y a peu de femmes dans ce secteur parce qu'il ne leur est pas favorable, puisqu'il demande l'usage de la force. Réponse de Serge à Ouagadougou au Burkina. Au Burkina, je le précise, où il y a une des meilleures écoles d'ingénieurs de la sous-région qui s'appelle le 2IE. Pourquoi estimes-tu qu'être ingénieur requiert de la force? Une femme peut être très bien ingénieure en électricité, en informatique appliquée, ou ingénieure en chimie organique, ou même sanitaire. Il s'y connaît, hein, quand même, le Serge. Ce sont des stéréotypes qui ne doivent pas prospérer dans nos sociétés. Et c'est à Dijon. Alors lui, il est originaire de N'Djamena, mais il est à Dijon en France. Le métier d'ingénieur est un terme salade. Il faut préciser ce qu'est ce métier et les missions qu'il couvre pour mieux comprendre. Il faut bien préciser qu'en France, il y a un titre d'ingénieur. Hein,
C'est un titre et ça amène à beaucoup, beaucoup de métiers.
Délivré par l'État, d'ailleurs.
Hein. Absolument.
Gildas, qui est à Boaké, dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous dit « Ce n'est pas une question de discrimination. Les femmes sont paresseuses et n'aiment pas les maths.
Oh »
Elle se penche vers les filières littéraires pour éviter de se casser la tête, car la femme préfère parler plutôt que calculer. Soumaya, qui est à Dakar, en réponse à Gildas, il y a bien trop de préjugés dans ses commentaires. Ils reflètent d'ailleurs très bien la bêtise de leurs auteurs.
Pas
ou encore, on compte les points, c'est ça.
C'est ça, oui.
Anandi, qui est à Chennai, en Inde, nous dit que chez elle, en Inde, il y a autant de filles que de garçons qui choisissent ce métier. Les filles réussissent d'ailleurs mieux que les garçons, surtout en civil et mécanique, en génie civil et mécanique. Très bonnes écoles d'ingénieurs, bien sûr, en Inde. Serge à Douala, au Cameroun, nous dit que les femmes sont faites pour gérer un foyer, pas pour être ingénieur. D'ailleurs, combien de femmes ont réagi à ce sujet sur Facebook? Et puis Soumaya, toujours la même, qui répond en réponse à ses commentaires à Dakar. Comment au XXIe siècle peut-on avoir un esprit aussi étriqué? De quel mal pouvez-vous donc souffrir pour autant détester le sexe opposé? Pensez-vous à votre mère quand vous écrivez ceci?
Voilà.
Ou à votre fille.
À votre fille, oui.
Eh bien, appelez-nous, oui, parce qu'en général, ils sont très sensibles à l'avenir de leur fille, à la carrière de leur fille. 33, 84, 20. 22, 71, 71, surtout quand ils n'ont pas de garçon, rajoute Marie-Sophie Pavlak. Allez, le débat est lancé et bien sûr, on débat sur ce pourquoi finalement aussi peu de femmes ingénieures dans de très nombreux pays.
7 milliards de voisins.
le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Marie-Sophie Pavlak, voilà 10 ans que vous avez créé l'association Elle Bouge. À partir de quel constat en France ?
On part du constat qu'on a effectivement, comme vous l'avez dit, la parité en terminale S. Autant de filles que de garçons, terminale scientifique en France. Mmh.
Plus de mentions au bac S pour les filles.
Voilà, elles réussissent un peu mieux, effectivement. Et par contre, l'année d'après, on les perd, puisque les garçons sont 4 fois plus nombreux à se diriger vers des études d'ingénieurs, de techniciens, des licences scientifiques, des BTS, des DUT, et 4 fois plus nombreux que les filles. Donc, que s'est-il passé ?
Ah oui. Et donc, où sont-elles passées ?
Alors, elles vont plus facilement dans des études de management. Quand elles veulent faire des sciences, il y en a beaucoup qui se dirigent vers les études de médecine ou paramédicales.
Plus nombreuses en médecine. Hein, donc
elles sont plus nombreuses. Et on est bien dans le fait que les femmes s'orientent souvent dans des carrières qui tournent autour du care, c'est-à-dire prendre soin d'autrui, également prendre soin de la planète, etc. Et moins dans la science, dans la technique pure et dure. Et tout ça, c'est à cause de stéréotypes induits et une grande méconnaissance du métier d'ingénieur. Parce qu'il n'y a pas un métier d'ingénieur, il y en a des dizaines. Donc c'est déjà compliqué de se représenter ce qu'est le métier d'ingénieur. On n'a pas des grandes séries télévisées comme Dr House, etc., de la technologie et encore en plus au féminin. Et on ne connaît pas, comme son médecin ou son avocat, on ne connaît pas forcément dans la vie de tous les jours des ingénieurs. Et puis par ailleurs, la grande multiplicité et la grande diversité des parcours d'ingénieurs fait que c'est compliqué de savoir ce que c'est. Donc les secteurs industriels les plus connus, qui sont par exemple les secteurs des transports, de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, mais aussi, comme vous l'avez dit, du bâtiment, de la construction, du numérique, de l'énergie, tous ces secteurs-là sont des secteurs qui sont vers lesquels les
alors,
garçons
quand
sont...
Quand vous dites bâtiment, déjà tout le monde s'imagine avec une femme avec un casque de chantier, c'est pas forcément ça.
Hein. C'est-à-dire que la mécanisation au siècle dernier a changé beaucoup de choses, effectivement, par rapport à un prérequis qui a pu être valable il y a des années, qui était la force physique. Cette mécanisation et cette numérisation, même l'industrie du futur, devient de plus en plus... On a la transformation digitale qui irrigue tous les secteurs. Et ça, effectivement, le critère force physique n'est plus nécessaire dans tout.
Mais alors vous, comment vous êtes devenu ingénieur ? Je m'étonne finalement. À Fafsornin, vous avez entendu beaucoup de choses. Je crois que vous avez été entre autres passionné de dessin technique, que vous avez enseigné.
Tout à fait.
Vous étiez au courant.
En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je viens d'une famille de juristes. Donc mes parents sont juristes, il n'y a aucun ingénieur dans ma famille. Et quand j'étais jeune, j'ai eu... Alors ça va parler à ceux qui ont pas moins de 20 ans, parce que c'est un peu vieux, j'avais eu ma première console, ce qui était Atari en ce temps-là,
je crois
que tout le monde voit. Et en fait, j'avais cassé la manette. Et la manette, elle était en plastique. Hein, donc c'est la manette qui cassait au début. Et au lieu de l'envoyer à la poubelle,
vous avez tout démonté.
Je l'ai ouverte et puis je l'ai démontée. Je dis, ah, mais en fait, j'étais au collège. Hein, je dis, ah, mais en fait, c'est juste un bouton sur lequel on appuie. C'est juste un contact. Et si je mettais quelque chose ? Alors j'ai mis des scotchs, c'était pas très beau. Hein, je n'ai pas, voilà, mais c'était la première chose que j'ai faite de ma vie et qui m'a dit, mais en fait, ce que je voudrais faire, c'est quelque chose qui s'oriente dans ce système-là.
Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez rencontré finalement des freins, des stéréotypes, des images qu'on vous a renvoyées qui ne correspondaient pas à votre aspiration.
Oui, alors je vais alors du coup moi je suis d'origine marocaine. Donc du coup clairement ce que j'ai entendu tout à l'heure sur Facebook, alors ma famille en elle-même ne m'a pas renvoyé cette image-là, mais les gens autour pouvaient me dire, mais en plus t'es super douée, parce que j'étais bien dans les yeux, pourquoi tu fais pas médecine ? C'est la roi d'excellence, tu es bien, t'as les bonnes notes qui vont bien, donc pourquoi tu fais pas cette filière-là ? Alors que moi j'avais envie de faire autre chose, donc il y avait quand même des gens qui m'étaient... parce que dans leur tête, bon élève, mais fait médecine et pas ingénieur. Et d'autant plus qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Parce que dans ingénieur, c'est ce qu'on disait, c'est un titre Et ingénieur, ça peut être dans l'énergie. Aujourd'hui, par exemple, on parlait de force physique. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, on peut fabriquer des pièces en imprimant 3D. Donc celui qui s'est appuyé sur un bouton chez lui pour sortir une feuille imprimée, il sait fabriquer une pièce.
Ouais, ça s'appelle la digitalisation de l'industrie, on va en reparler. Et Martine Landon, on vous a dissuadé quand vous étiez lycéenne. Je crois qu'au tout début, vous vouliez être pilote de chasse.
Tout à fait. Quand j'avais 13 ans, je vivais dans une ville où effectivement je voyais passer beaucoup d'avions militaires, voilà, ça nous rapproche. Et j'avais vraiment envie de faire ce métier. Pilote de chasse, c'est un truc dont je rêvais. Et puis je me suis renseignée auprès de l'aéronavale et c'était à une époque où, courtoisement d'ailleurs, on m'a répondu qu'il n'y avait pas de femme pilote de chasse. Donc, c'était une très grosse déception, hein, c'est un rêve de gosse, on imagine ce que ça veut dire derrière.
Bon, excellente élève vous aussi.
Ah oui, pas de problème, oui, maths, physique, en fait je n'aime que ça quoi. Je n'aime que ça, voilà. Et puis j'ai eu la chance, mais vraiment ça s'appelle une chance, d'avoir un prof de maths qui était très bien.
Un
prof de maths.
Un homme qui a cru en vous.
Un homme qui a cru en moi, qui m'a dit « mais qu'est-ce qui t'arrive quoi, tes notes c'est une chute libre, tu t'intéresses plus ?»« Bah non, je m'intéresse plus, je ne peux pas réaliser mon rêve. Pourquoi aller à l'école ?» Et ça a été assez dramatique pendant quelques semaines, quelques mois. Et ensuite, je lui ai dit, écoutez, parce qu'à ce moment-là, on ne tutoyait pas les professeurs, n'est-ce pas ? Et je lui ai dit, il m'est arrivé ça et je n'ai plus envie de rien, quoi. Et elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, quand tu vas être en seconde, tu vas avoir un champ de possibilités qui va être incroyable, ne te focalise pas là-dessus. Et là, arrivé en seconde, j'ai découvert la physique. Et là, j'ai eu de nouveau les papillons devant les yeux. Et là, je me suis remise à rêver. Et là, je me suis dit, parce que j'adorais l'astronomie, je me suis dit, je vais enfin pouvoir expliquer comment fonctionne le monde. Et c'est ça que ça représente pour
ensuite,
moi.
Ensuite, classe préparatoire et grande école d'ingénieurs.
Exactement, école des mines. Et le reste a suivi avec une passion dévorante et qui me dévore toujours.
Sur cette méconnaissance des métiers, Stéphane Randretsa, c'est réellement un problème, le fait que les groupes industriels, les grands groupes industriels, on est dans un métier encore industriel hein, en France, on est dans une puissance industrielle avec de très fortes compétences. Le fait que l'industrie ne parvienne pas à vulgariser ses métiers, mais y compris d'ailleurs pour les garçons, ceci dit, hein, il y a aussi un problème de recrutement. C'est une question aujourd'hui qui taraude les entreprises.
Oui, ça nous préoccupe. Alors d'abord, je voulais vous dire, j'étais très content d'être là pour deux raisons. D'abord, je suis un homme. Deux, je ne suis pas ingénieur. Donc, merci de m'inviter. Si vous voulez, sur l'évolution des métiers, c'est vrai que au sein d'Engie, vous avez fait état de ce qu'était la raison d'être du groupe, hein, sur tout ce qui est finalement l'énergie au sens large du terme. Moi, je représente des activités de service à l'énergie, hein, toute la thématique de l'efficacité énergétique, de la transition numérique. Et donc, c'est vrai qu'on a, sur nos 40 000 collaborateurs, une palette de
métiers en France.
Métiers,
hein,
en France.
L'énergie dans le monde, c'est
153 000 dans le monde. On a 40 000 personnes en France. On a beau avoir des activités en France, on a aussi un certain nombre de projets à l'international. Notamment en Afrique, on a beaucoup d'infrastructures de transport urbain. Actuellement, on est à Dakar avec un TER qui a été inauguré récemment. On a aujourd'hui des images qui sont encore, je dirais, très, très archaïques sur la connaissance des métiers. Nos métiers de service, on parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup d'efficacité énergétique. On vient de métiers qui, pour beaucoup d'entre eux, sont issus de la construction, du bâtiment, des lots techniques, avec effectivement le préjugé d'une femme ne peut pas finalement conduire un chantier, par exemple. Bon. Donc, en fait, on a tout un travail avec Elle Bouge, notamment. On a une centaine de marraines où on a tous les ans des rencontres pour expliquer, démystifier et surtout valoriser. On a finalement 1000 expertises différentes sur le métier d'ingénieur.
Pourquoi les entreprises auraient intérêt à une mixité dans ces métiers ?
Écoutez, tout à l'heure, j'entendais je crois que c'est sur Facebook, quelqu'un faisait parler de l'usage de la force, qui était finalement un peu une limite pour recruter des femmes. Nous, on se rend compte que dans un certain nombre d'initiatives, alors je ne réponds pas au sujet des ingénieurs, mais des techniciens ou des femmes sur chantier, même si on est encore un peu homéopathique, on se rend compte que la force physique, elle est assez allègrement compensée par une force intellectuelle. Alors, je ne dis pas ça pour être aimable avec vous, puisque vous êtes quatre contre moi. Hein, mais tout simplement de dire que plutôt que de travailler, finalement, comme des brutes épaisses sur un certain nombre de process chantiers ou industriels, on a, en termes de méthode, en termes de logistique, d'une certaine manière, un bon sens qui apporte un autre regard sur des activités qui sont, entre guillemets, limitées dans les esprits aux hommes.
Marie-Sophie Pavlak ?
Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi les entreprises cherchent à recruter des femmes pour les bons atouts de la mixité. C'est-à-dire que c'est pas pour afficher un quota, ou, etc. C'est que les entreprises se sont rendues compte que davantage de mixité, dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que des entreprises qui auraient trop de femmes auraient besoin d'avoir davantage d'hommes, hein, débouche sur un meilleur climat social, parce que la société à la base, elle est mixte, la société dans son ensemble. Les atouts de la mixité, les femmes peuvent avoir, par exemple, des approches techniques différentes, des styles managériaux différents.
C'est pas du stéréotype, ça, de dire, compléter. Je sais pas, à Favre-Sornin, vous êtes manager essai moteur dans une entreprise d'aéronautique. Quand vous analysez un problème technique sur des moteurs, vous êtes un cerveau scientifique et rien de plus.
Oui, mais après, je suis un cerveau scientifique et rien de plus. La seule chose, c'est que si la société, comme disait Marie-Sophie, elle est mixte. Et c'est important que la société industrielle aussi le soit. Parce que déjà, on le voit, alors qu'on le veuille ou non. Hein, c'est que moi, par exemple, j'ai de la chance d'avoir dans mon équipe plus de filles. L'innovation, la créativité est différente. Parce que la manière avec laquelle les gens réfléchissent est différente. Parce que les apports sont différents. Parce que nous n'avons pas la même... Alors, pas tous... C'est pas parce que c'est des femmes, c'est parce qu'on sait très bien que c'est la diversité, ouais. C'est le fait qu'il y a plusieurs
mélange.
Personnes,
en c'est fait, le mélange. C'est le mélange, c'est ça. C'est le mélange qui fait une bonne équipe.
Tout à fait. Et il y a autre chose, c'est que moi, en étant manager, alors ça s'est fait d'une manière inconsciente, j'ai plus de filles qui veulent venir chez moi parce que le climat est plus apaisé, les propos sexistes, j'en parlais, sexisme ordinaire. Les mecs chez moi, le sexisme ordinaire, bon, ils réfléchissent deux fois avant de le sortir. Voilà. Mais ça apporte des choses dans la société.
Je voudrais revenir sur le cerveau féminin ou masculin va traiter effectivement de la même façon, on peut traiter de la même façon un sujet scientifique. Maintenant, l'égalité homme-femme, c'est vouloir, et l'égalité professionnelle notamment, c'est vouloir les mêmes droits, avoir les mêmes devoirs, mais aussi avoir les mêmes ambitions entre hommes et femmes. Ça ne veut pas dire... Un homme égale une femme, on est différent. On a des différences physiologiques, émotionnelles. Et c'est cette différence aussi, et cette diversité qui fait que ça apporte une richesse dans une équipe, par exemple. C'était ça mon propos.
Et est-ce que globalement, Stéphane Rendrette, ça, dans les grands groupes industriels, vous manquez toujours de talents, et donc il n'est pas question de se priver de talents, y compris féminins. Il y a aussi ce problème-là, à la base, ou pas ?
On a aujourd'hui, en termes de volume de recrutement à l'échelle d'Engie, plus de 20 000 recrutements par an dans le monde, à peu près 12 000 CDI en France, et les activités que je représente, on a tous les ans un peu plus de 2500 CDI. On a aujourd'hui très clairement sur le marché plusieurs éléments. D'abord, un, on est sur des activités qui sont aujourd'hui en reprise d'une façon générale sur tout notre environnement concurrentiel. Et on a une chance extraordinaire, c'est que les métiers de la transition énergétique, à travers les énergies renouvelables, à travers le digital, on a finalement aujourd'hui des champs extraordinaire de développement sur lequel on a une guerre entre guillemets des talents, hein. Donc l'objectif c'est bien évidemment d'attirer tous les talents et on est là aujourd'hui avec des opportunités qui sont à travers la transformation des métiers une capacité quand même qui est beaucoup plus aisée aujourd'hui à attirer des talents hommes et femmes, parce que quand on est sur des métiers d'ingénieurs en efficacité énergétique, en des ingénieurs, des data analystes, des data scientists, on est sur des chefs de projet, on est quand même beaucoup plus sur de l'engineering de projets complexes que sur des activités qui étaient des activités beaucoup plus opérationnelles il y a quelques années.
Et de belles carrières en perspective pour les femmes, on va en parler un peu plus précisément. Vous restez avec nous, les voisins, les voisines, bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Peut-être on reparlera du TER Dakar Diamniadio, c'est bien ça, hein, qui relie l'aéroport Absolument. À la capitale. Est-ce qu'il y avait des femmes ingénieures sur ce chantier ? On retourne dans l'émission dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins à l'occasion de la semaine de l'industrie. Nous nous posons la question, pourquoi si peu de femmes ingénieures, entre 25 et 30% en France? C'est le cas dans de très nombreux pays industriels. Nous en discutons avec Marie-Sophie Pavlak, ingénieure chimiste de formation, qui a créé l'association Elle Bouge il y a 10 ans pour susciter des vocations chez les jeunes femmes dans le domaine industriel. Afaf Sornin, ingénieur, manager essai moteur en développement chez Safran, un groupe industriel dans l'aéronautique. Martine Landon, vous êtes ingénieure dans une entreprise qui fabrique des machines de soins esthétiques et médicales. Vous avez raconté en première partie un peu votre parcours personnel et vos choix et les freins aussi que vous avez rencontrés, Stéphane Rendretza. Et vous êtes un homme, DRH, pas ingénieur, mais DRH au sein d'un grand groupe industriel, Engie, fournisseur d'énergie et partenaire aussi de l'association Elle Bouge. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Ismaël qui nous appelle de Niamey au Niger. Bonjour Ismaël.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes vous-même ingénieur, non? Vous êtes dans. Je crois que vous travaillez à la Société nigérienne d'électricité, c'est bien cela?
Affirmatif, c'est bien cela.
Et vous êtes ingénieur ou technicien supérieur?
Non, je suis technicien à la Société nigérienne d'électricité, Nigelec.
Ouais. Alors qu'est-ce que vous observez autour de vous?
Bon, merci quand même Emmanuel. C'est vraiment une émission que je suis à chaque moment. Et vraiment, donc nous, chez nous, au Niger, vraiment le constat, c'était depuis au banc. C'est ce que je voulais dire par là, depuis les lycées scientifiques, vraiment, le nombre de filles est très négligeable. Mmh. Voilà. Donc, présentement, où je vous parle, chez nous, à la Nigelec, et même dans les autres instituts industriels, vraiment, le nombre de femmes ingénieures ou même travail technique est très, 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 très faible.
Mais parce que
il y a même des endroits.
Oui.
Il y a même dans des instituts, dans des domaines où vous allez trouver, vous n'avez trouvé aucune femme. Mmh. Voilà, donc vous voyez comment la femme ne s'implique pas dans les domaines techniques et scientifiques.
La femme ne s'implique pas dans les domaines techniques et scientifiques, mais au niveau du lycée, les filles sont déjà absentes des filières scientifiques,
hein? Effectivement. Parce que si je vous donne un exemple très palpable, moi j'ai étudié au lycée technique d'Nkassawa de Maradi. Mmh. Donc dès la seconde T1, seconde scientifique, il y a seulement une seule fille.
Dans la classe.
Et elle, ouais, aussi qui a fini par désister par la suite.
Ah, elle s'est désistée. Et pourquoi cela?
Elle s'est désistée par la suite.
Est-ce qu'elle avait des bonnes notes dans cette classe en seconde, cette seule fille?
Effectivement, elle est très bonne. Elle est très bonne, surtout en matière technique.
Oui.
Au niveau des travaux pratiques, vraiment, elle s'y met, elle est très bonne. Bon, elle ne sait pas.
Mais par la suite, et pourquoi elle a désistée. Abandonné? Est-ce que vous avez su à l'époque pourquoi elle avait abandonné?
Bon, c'est quelqu'un qu'on a rapproché à la dernière minute. Bon, on l'a disait que pourquoi, on l'a demandé pourquoi elle a désisté. Elle disait que ce sont ses camarades du pays, des filières administratives, qui l'ont dit que non, non, même si une fois elle finit avoir son diplôme, elle ne va pas avoir un travail en tant que technicienne femme.
Ah, d'accord.
C'est tout à fait le contraire.
Ah oui, qu'elle risquerait le chômage, alors qu'elle était excellente et que, a priori, ce sont des métiers où il y a du travail pour tout le monde, y compris pour les filles. Votre histoire est édifiante, Ismaël, extrêmement intéressant, hein. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Niamey. Alors justement, on va donner la parole à une physicienne, directrice adjointe de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Bonjour Claude-Marie Ngabireng.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes au Cameroun, vous dirigez donc cette école d'ingénieurs prestigieuse au Cameroun, voire dans la sous-région depuis 4 ans. Vous êtes numéro 2 de cette école. Quelle est la situation, quelle est la proportion des filles dans cette école?
Donc nous avons environ un tiers de l'effectif constitué des femmes, des filles, oui.
Nos invités disent pas mal, hein, en studio. Oui.
C'est vrai. C'est pas toujours le cas dans les écoles d'ingénieurs en France.
Oui. Ah oui, vous voyez, hein. Plus de filles à l'école polytechnique au Cameroun que dans certaines écoles d'ingénieurs en France.
Polytechnique en France, notamment.
Oui. Polytechnique en France, combien de filles?
À peine 10%.
À peine 10%. Bon, bah, vous vous rendez compte de la prouesse, Claude-Marie Ngabireng.
Tout à fait. Parce qu'en fait... Oui,
dites-nous un peu quels sont les profils de ces filles. Comment vous parvenez à ce chiffre?
Bon, déjà, nous allons vers les lycées et collèges pour les sensibiliser à l'entrée à l'ENSP. Voilà, généralement, c'est le profil bac C, bac E, S. Voilà un peu comment ça se passe.
Et ensuite, comment se passe l'insertion professionnelle? Alors, vous formez 200 diplômés par an, hein?
Environ, oui, en moyenne. Bon, l'insertion, elle se passe comme pour les garçons, hein? C'est-à-dire que les offres d'emploi, elles réagissent, et puis voilà, elles sont retenues. Et généralement, nous n'avons pas un problème particulier que peut-être elles ne donnent pas satisfaction à leurs employeurs. Au contraire, je pense que tout se passe très bien pour elles.
Et comment se positionnent les entreprises sur cette question des femmes ingénieures? Est-ce que c'est un sujet qu'on évoque ou pas?
Je dirais que lorsqu'ils demandent, elles demandent généralement un recrutement. Nous leur donnons les noms et puis, voilà, ils procèdent à leur recrutement suivant leurs critères. Bon, à mon avis, ça se passe généralement par compétence, hein. Bon, c'est pas, je ne pense pas que le caractère féminin prime là-dessus. Je ne pense pas.
Donc, en fait, les questions que je vous pose n'ont pas de raison d'être, j'ai l'impression, Marie-Claude, Claude-Marie-Anne Gabireng, non?
Bon, peut-être que là, je n'ai pas suivi bien la dernière question.
Non, mais finalement, vous me dites non, mais ce n'est pas un sujet. Non?
Oui, je veux dire, oui, en fait, c'est pour dire que nos filles sont aussi valeureuses que les garçons.
Et c'est parce que peut-être vous raisonnez de cette façon-là que vous parvenez à, quand vous sillonnez les lycées, à recruter, à convaincre des filles de se présenter au concours pour intégrer l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé?
Je ne pense pas que vraiment
vous leur dites, la palme me revienne. Vous êtes comme les autres, c'est ça?
Moi, je ne pense pas que la palme vraiment doit me revenir parce que ça commence déjà par les familles. Parce que si je n'ai pas une jeune fille en terminale C, en terminale D, bon, je ne vais pas en créer. Donc, ça veut dire que c'est d'abord les parents qui font le premier boulot. Parce que, bon, nous savons quand même que avec le diplôme d'ingénieur, c'est facile de trouver le travail. Donc, les parents font en amont le boulot. Et puis, bon, nous venons juste donner la dernière étincelle en la présentant à l'école.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Claude-Marie-Anne Gabireng, directrice adjointe de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. À Faf Sornin, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais juste dire que ce que fait cette dame est super, mais c'est une école. Donc, sur une école, on a le tiers, mais est-ce qu'elles ne sont pas toutes à peu près dans cette école-là? Et c'est l'école polytechnique, c'est toujours c'est une école qui est de renommée quand même, donc tout le monde veut y aller. Je crois qu'il y a même des filles qui viennent d'Afrique subsaharienne, enfin, autre que le Cameroun. Ce que nous disait tout à l'heure, ce qu'on a vu sur Facebook et ce que disait votre auditeur tout à l'heure, ne reflète pas complètement la même, cette même belle réalité qu'elle a ailleurs, quoi.
Alors, sur le calcul des familles, elle a bien souligné que les familles qui envoient leur fille bonne élève en filière scientifique et ensuite qui les poussent vers une école d'ingénieur, elles font le calcul que, bah oui, ingénieur, c'est le plein emploi presque partout dans le monde, finalement, Marie-Sophie Pavlak.
Alors ça, c'est un des messages moi que je fais passer à chaque fois que je le peux auprès des lycéennes, donc avant l'orientation, c'est que malgré un moment où l'économie est encore difficile, notamment en France, mais dans le monde, toute la partie technologique et industrielle est pourvoyeur d'emplois. On manque d'ingénieurs dans le monde entier, garçons comme filles. On ne fabrique pas assez d'ingénieurs. Et donc, le plein emploi est assuré. Et après, donc, il y a une vraie volonté des entreprises, je parle en tout cas pour les 60 partenaires industriels d'Elbouge, une vraie volonté d'avoir davantage de mixité dans leurs équipes techniques. Et à la limite, on leur déroule le tapis rouge plus qu'aux garçons, parce qu'il y a cette volonté de féminiser les équipes. Donc, autant saisir la balle au bon.
Oui, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'en termes de recrutement sur finalement les populations d'ingénieurs, on a toujours la frustration d'avoir finalement des hommes et des femmes, mais qui font souvent le choix de faire de l'audit, de la finance, du conseil, parce que là encore, il y a un déficit d'image sur des métiers qui, à mon sens, sont beaucoup plus passionnants, très exigeants, mais probablement moins pressurés que dans les métiers qui sont les métiers que j'ai cités, notamment dans les dans les grandes sociétés de conseil. Après, je vous parlais de plein emploi, on a aujourd'hui 75% de nos fonctions qui sont des fonctions de techniciens. On a des dizaines de milliers de techniciens chez Engie, et on mesure là l'extrême difficulté de sourcer des candidates. Juste un exemple, quand on parle d'apprentissage, vous êtes dans des centres de formation pour apprentis, fréquemment avec moins de 5% de candidatures féminines. On a noué un partenariat avec une société d'intérim pour nous aider à industrialiser un process de recrutement, plus exactement de sourcing. Pour une jeune femme sur une fonction technique de technicien ou sur chantier, c'est plus de 800 CV qui doivent être travaillés avant de coopter une candidature. Donc c'est quelque chose qui est assez effrayant en termes de ratio.
Et en même temps, rare et précieuse.
Oui, et en même temps, quand on vous écoute, Martine Landon, vous nous disiez, alors pendant le flash, on continuait la discussion, on parlait de combien de femmes directrices d'usine, c'est vraiment une rareté. Vous avez été directrice d'usine.
Moi, j'étais.
Vous avez adoré ce métier.
J'ai adoré ce métier parce que c'est un métier qui est éminemment managérial. Donc on vient non seulement apporter des solutions techniques.
Et c'est concret. On voit.
Et c'est très concret. Et moi, j'étais directeur d'usine à une période où les plans sociaux, ça tombait tous les jours. J'ai travaillé, bon, je vais le citer parce que bon, il a disparu, donc on peut y aller. C'est le groupe Péchinet. Moi, j'étais dans un groupe qui s'appelle Mersenne, qui existe toujours, qui vit très bien. Et effectivement, j'ai eu la chance, l'opportunité d'avoir des formations très adéquates qui m'ont amené à un métier de manager. Donc d'ingénieur, on passe à manager, avec des équipes importantes, où effectivement, le challenge, il était là tous les jours. Il fallait rentabiliser. Bon, c'est un mot aujourd'hui assez trivial, mais à cette époque-là, il fallait vraiment y aller. Et ça se fait avec les équipes. Mais ça relève aussi du comportement de l'entreprise qui veut, qui souhaite. Et lorsque je suis rentrée dans ce groupe Béchinet, c'était très clair, le message était très clair. On fera de vous un directeur de filiale. Vous signez pour ça. Et après, tout a été mis en place tous les ans, avec une certaine récurrence.
Ça veut dire qu'il n'y avait aucun frein, en
fait. Aucun frein. C'était un groupe qui était avant-gardiste, avant l'heure. Et j'en ai bénéficié, et aujourd'hui, j'en bénéficie toujours, forcément, parce qu'on sait faire.
Bon, aujourd'hui, en tout cas, vous êtes toutes et tous autour de la table mobilisés pour faire passer des messages. L'association Elle Bouge a 17 propositions autour de 4 grands sujets pour qu'il y ait dorénavant plus de femmes ingénieures. Et ce sont évidemment des propositions qui sont tout à fait valables dans d'autres pays. On va les détailler dans quelques instants. Dugutigo kumana robne ulayu tara na alisini ube kolonji de solila na mahine anga mahola ube sege ube nyanina uhai kebe paula na yuto kona na hilila. I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water.
Desert get the blues, I dare you, walk a mile inside our shoes. My brothers are marching 1,000 miles, they all share one dream and a broken smile. Running away from hell straight to the sea, get on the boat, goes ahead to sea. The Eldorado on the other side.
C'est Tina Modja qui chante Water. Alors, on le disait, il y a des actions qui sont déjà mises en place par des associations dans différents pays, parce qu'il n'y a pas que la France qui se mobilise sur ce problème-là, si peu de femmes ingénieures. L'association Elle Bouge, vous cadrez vos actions sur, en gros, 4 grands sujets, Marie-Sophie Pavlak, pour susciter des vocations.
Pour susciter des vocations, rien de mieux que les rôles modèles, c'est-à-dire des femmes qui sont déjà en poste, des femmes de tous âges, y compris des jeunes femmes, jeunes diplômées, qui peuvent témoigner de leur quotidien, de leur vie professionnelle auprès de jeunes filles au moment de l'orientation. Parce que pour augmenter le vivier des ingénieurs, il faut bien le faire effectivement avant l'orientation, donc au collège et au lycée.
Donc il faut déclencher le « pourquoi pas moi ?»
Voilà,
c'est ça.
Et il faut que les filles puissent, en entendant des jeunes femmes, comme AFAF, hein, ou comme d'autres raconter leurs belles histoires, puissent se dire, voilà, moi, dans 5 ans, j'ai envie d'être comme elle. Et qu'elle se retrouve aussi même dans la vision féminine. C'est-à-dire que vous parliez des casques de chantier, etc. Les femmes ingénieures, c'est des femmes comme vous et moi, qui peuvent avoir un look sportif, un look élégant, et qui peuvent enfiler un casque de chantier à un moment, mais c'est pas 24-24. Voilà. Et le côté féminin est aussi important quand on a entre 15 et 18 ans et qu'on va s'orienter. Il faut se projeter en tant que femme, il faut se projeter en tant que dans sa vie professionnelle. Donc la clé de l'association Elle Bouge, c'est de faire 300 événements par an dans toute la France, mais on a commencé cette année à en faire aussi à l'international à l'occasion du 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes, où on fait des événements où le plus souvent on sort les filles du contexte scolaire et on les fait venir par exemple au Salon du Bourget, au Mondial de l'Automobile, ou dans une unité de production d'énergie chez Engie.
Et là, qu'est-ce qui se passe quand on emmène les filles au Salon du Bourget?
Ah bah là, elles ont les yeux qui brillent, mais je vais laisser la parole à Afaf, parce que c'est une de nos marraines qui a participé.
Donc, moi, ça
Elles sont volontaires.
Elles sont volontaires. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent, il y a beaucoup de marraines, il y a des personnes de l'association qui viennent. Elles sont assez émerveillées, elles ont des étoiles dans les yeux quand elles voient les moteurs d'avion, les démonstrations en vol. Elles sont juste, et qu'on leur explique que, parce que c'est surtout des marraines, enfin, entre guillemets, qui viennent de l'aéronautique, qui sont là, qu'on leur explique que nous, on a participé à faire ce moteur d'avion ou bien à faire l'avion qu'ils viennent de voir. Et elles sont très intéressées. Et après, ça suscite un dialogue et elles commencent à poser des questions. Mais alors, en fait, c'est pas ce qu'on croyait. Comme disait Marie-Sophie, on est habillé normalement. Hein, on n'est pas tout le temps en bleu de travail. Voilà, si vous le voyez, on n'est pas en bleu de travail, tout ça. Donc, ça enlève une vision qui est juste...
Ça s'appelle lutter contre les stéréotypes.
Voilà.
Au niveau des carrières, Stéphane rendrait de ça. Est-ce que vous pensez que la digitalisation des métiers, aujourd'hui les métiers sont en train de se modifier énormément, y compris dans l'industrie, est-ce que ça peut aider ou pas la féminisation des ingénieurs?
Sur le panel d'expertise, on voit bien qu'on est là sur des couches finalement plus soft, quand on va parler de cybersécurité, quand on va parler de smart grid, quand on va parler de...
Les villes intelligentes.
De villes intelligentes, villes et territoires connectés. Donc on voit bien que là, on a une offre, nous, finalement, de compétences qui permet d'élargir le panel. Mais je voulais revenir à ce que vous évoquiez sur ce qu'on raconte, entre guillemets, aux jeunes femmes, aux jeunes lycéennes. On ne leur parle pas trop de technique, parce que finalement, on peut vite se perdre, compte tenu de la palette. Par contre, c'est vrai que dans nos activités qui sont par nature people, hein, 40 000 personnes, c'est 40 000 personnes sur le terrain, on parle beaucoup finalement de ce qui fait un peu l'ADN de nos activités. Hein. Quand on va parler d'esprit entrepreneurial, lorsqu'on va parler d'autonomie, lorsqu'on va parler de valeurs humaines sans que ça soit galvaudé, il y a vraiment dans cette notion d'équipe, alors une équipe ça peut être 5 personnes, 20 personnes, 100 personnes, il y a vraiment, j'allais dire, une dimension qualitative forte dans nos métiers. Et en ce qui concerne l'évolution de carrière, on voit qu'aujourd'hui, l'ascension, elle se fait 90% de nos chefs de chantier, de nos chefs d'équipe, sont tous issus du terrain. Et lorsqu'on regarde finalement ce qu'on appelle des centres de profit, on a plus de 900 managers de proximité, et on peut avoir effectivement des managers et des manageuses issus finalement au plus près du terrain. C'est pas 90% d'une promotion, mais ça veut dire qu'on a vraiment aujourd'hui des exemples avec des parcours de carrière qu'on trouve rarement, parce qu'on est dans des activités où la dimension humaine, la dimension de délégation et d'autonomie est extrêmement forte.
Néanmoins, tout de même, Martine Landon, les jeunes filles se demandent « Oui, mais qu'est-ce que je vais faire comme métier ?» C'est quand même compliqué de se représenter cela, non ?
Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que avoir l'image...
Comment vous parlez de votre métier ? Vous, par exemple, vous êtes ingénieur dans une entreprise qui fabrique des machines de soins esthétiques et médicales.
Alors moi, je parle de mon métier en disant que je fais le plus beau métier du monde, parce qu'en fait, je crée...
Oui, mais vous ne répondez pas à la question.
En fait, je ne vais pas répondre à la question. Moi, ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, c'est si les filles ne se dirigent pas vers des métiers techniques, d'ingénieurs, c'est aussi parce qu'il y a le regard des mères. Et les mères ont une influence terrible sur le déroulé de la vie des jeunes filles et des jeunes femmes, tout simplement parce qu'elles-mêmes ne sont pas issues du monde technique. Donc, si vous voulez, il y a un blocage inconscient à l'entrée, et c'est ce verrou-là qu'il faut essayer de faire sauter impérativement, en disant écoutez, il faut aller voir, visiter, rencontrer. Le parrainage sont des choses absolument extraordinaires dans le domaine.
inconsciemment une femme médecin. Sa fille est très bonne en maths. Elle rêve de la médecine pour sa fille.
Bien sûr. Moi, je vais donner, abonder dans le sens de Martine. Moi, j'ai effectivement eu un diplôme d'ingénieur. Le jour de mon diplôme, ma mère m'a dit « Super, maintenant, tu vas pouvoir faire professeur. » Et j'ai dit « Pourquoi ?»
Professeur de quoi ? De maths ?
De maths, oui, parce que comme ça, tu auras les vacances scolaires pour t'occuper de tes enfants, etc. Bon, j'ai déjà un certain âge, donc on parle d'une génération, voilà. Et ma mère était elle-même institutrice. Mais donc, c'est vrai qu'il y a des stéréotypes qui sont encore très présents dans la tête des parents, même des parents plus jeunes. Et nous, d'ailleurs, à l'occasion du 8 mars, on a ouvert les établissements partenaires, ont ouvert les visites non seulement aux filles, mais on a invité les parents aussi. Mmh. Parce qu'en fait, les prescripteurs d'orientation font quelquefois aussi des orientations sexuées ou donnent des conseils d'orientation sexuée de façon totalement inconsciente. C'est-à-dire que quand on dit à son fils « Bouge-toi, tu peux y arriver, allez, inscris-toi en classe prépa » et qu'on dit à sa fille « Ma chérie, choisis bien un métier dans lequel tu vas t'épanouir, c'est important, l'harmonisation de la vie professionnelle, etc. » Ces deux discours sont valables, mais ils doivent être tenus autant aux garçons qu'aux filles dans les deux sens. Et c'est ça. C'est ça. Et par contre, les parents pensent bien évidemment avoir le meilleur conseil pour leurs garçons comme pour leurs filles, sans se rendre compte forcément de façon consciente que finalement, ils vont peut-être donner plus d'ambition aux garçons qu'aux filles. Et le mot ambition, c'est la clé. C'est un des conseils que l'on donne quand on rencontre des jeunes filles. Effectivement, elles ont les yeux dans les étoiles et émerveillées d'entendre ces beaux parcours. Nos marraines expliquent ce qu'elles font au quotidien. J'arrive le matin, je serre la main à mon équipe, je prépare un voyage parce que je vais en Inde sur un projet de construction, etc. Voilà. Je travaille beaucoup à l'international. Donc tout ça, déjà, ça leur parle aux filles parce que c'est du concret. Elles disent vraiment le contenu de leur agenda. Mais derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de leur dire, voilà, maintenant ça vous plaît, mais vous avez les clés. Donnez-vous les moyens de vos ambitions et effectivement, osez aller dans ces métiers, parlez-en, continuez ce projet d'orientation. On est là pour vous aider, l'association Elle Bouge, mais également avec vos parents et vos professeurs.
Mais être une femme ingénieure dans une multinationale, Stéphane Andretza, vous êtes chez Engie, vous n'êtes pas une femme, enfin vous êtes DRH, c'est le bagne ou pas alors ?
Ah non,
c'est le contraire.
Non, c'est pas le bagne. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que dans un groupe, vous l'avez dit, il y a une volonté politique forte, il faut appeler les choses par leur nom, il faut que cette politique elle soit portée au plus haut niveau. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tant une posture managériale qui consiste à dire « je ne vais pas embaucher de femmes », ça fait partie de l'angle mort. Ça fait partie des schémas qu'on reproduit. Je vais vous confesser quelque chose. Moi, ça va faire maintenant quelques années, je ne vais pas dire quelques décennies, mais pas loin que je suis dans le secteur d'activité. Si on m'avait dit il y a 25 ans que je passerais beaucoup de temps avec des équipes pour essayer de mobiliser le management pour embaucher des femmes sur chantier... Bon, j'étais à l'époque dans une PME. Je ne dis pas que la mixité, c'est l'apanage des grands groupes. Mais quelque part, cette dimension politique, elle est très importante. Et finalement, c'est de l'homéopathie. Aujourd'hui, on voit bien que en volumétrie, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de difficultés dans nos métiers techniques. Mais quand on sait porter une communication sur les retours d'expérience, il y a des bénéfices qui sont vraiment très, très importants. Et il y a une vraie dynamique qui se crée. Donc, il y a vraiment un cadre formel qu'il faut avoir.
Dans une multinationale comme Engie, de la volonté politique à la tête de la multinationale, notamment dirigée par une femme, la seule femme d'une entreprise du CAC 40, Isabelle Kocher, mère de famille nombreuse.
Une corrélation ou pas ? Je ne crois pas qu'il y ait corrélation, parce que si ça avait été un homme, on n'aurait pas dit que c'était un dirigeant avec une famille nombreuse. Donc, par contre, ce qui est bien clair, c'est que depuis 5 ans, le groupe, quand bien même dans nos activités, on a pu à un moment... douter, c'est-à-dire que c'est ce volontarisme forcené, il y a un principe de réalité sur lequel nous on se heurtait. Mais finalement, au-delà des quotas, vous l'aviez dit en introduction, c'est pas l'objectif ou le quota.
C'est pas du politiquement correct en fait, ça fait partie d'une politique de compétitivité d'embaucher des femmes ingénieures pour
vous. Absolument.
Il y a eu des études, l'étude McKinsey, qui prouvait effectivement que plus une entreprise était mixte, meilleure était la performance financière.
Tout à fait. Ouais, c'est vrai. On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais vous laisser la parole pour peut-être délivrer vos derniers messages. Il y a sûrement des jeunes filles qui nous écoutent, des étudiantes, des lycéennes qui nous écoutent. À Faf Sornin.
Donc moi, si j'ai à leur dire quelque chose, c'est que osez aller vers vos rêves. Ne laissez pas des stéréotypes détruire un rêve que vous avez. Et ne vous dites pas que la société n'a pas bougé. La société, elle bouge aussi avec nous. pour reprendre le message de Elle bouge. Moi, j'y suis depuis le début. J'étais encore étudiante quand j'y étais. Et je trouve que c'est un très beau message de bouger avec son temps. Et c'est en vous ayant dans les entreprises que la société aussi, elle va bouger avec nous.
Et voilà. Y compris pour des lycéennes qui nous écoutent, notamment sur le continent africain, hein, oui. Où beaucoup de choses restent à écrire sur le développement industriel, où les filles ont toute leur place.
Oui, les filles ont toute leur place. Bon, la preuve, moi, je viens aussi du continent africain au début. Et je crois que les mentalités changent. Il y a encore plus à se battre, mais ça vaut vraiment la chandelle.
Martine voilà. Landon.
Moi, je dirais simplement que dans les métiers d'ingénieur, il y a des choses extraordinaires à réaliser. C'est une belle aventure de joie. Bon, quelquefois, il y a des peines, mais il y a beaucoup de joie, en tout cas. Il y a beaucoup de partage. Il y a quelques années, j'ai lu un livre, petit fascicule, s'appelait « Femmes osées ». Alors, lisez-le.
Marie-Sophie Pavlak, pour Elle bouge.
Moi, je voudrais dire qu'au moment de l'orientation, c'est très important parce que ça influe sur toute sa vie professionnelle par la suite. Renseignez-vous sur voilà. tous les secteurs.
Vous êtes
bonne
en maths, n'abandonnez rien.
Voilà, renseignez-vous. Je fais aussi un appel s'il y a des femmes ingénieures qui nous entendent pour monter des structures. Elles bougent sur le continent africain. Ce serait avec grand plaisir. C'est dans le cadre de notre développement international.
On servira de courroie de transmission.
Voilà. Et n'hésitez pas, à embrasser des carrières scientifiques qui sont très porteuses
Merci
d'avenir.
Merci à vous toutes. Marie-Sophie Pavlak, Afaf Sornin, Martine Landon. Merci à vous aussi, Stéphane Andretza, directeur des ressources humaines chez Engie. Et merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néron, Romain Dubrac, Didier Chérouse. Demain, Sandrine Mercier présente l'émission. Je vous retrouve après demain, jeudi, vendredi, à Tunis.
Présidentielle 2017.